Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. À l'occasion de la sortie du film Le Dernier Duel de Ridley Scott en salle demain, mercredi 13 octobre, j'ai eu envie d'évoquer pour vous le duel judiciaire qui opposa Jean de Carrouge et Jacques Le Gris à l'hiver 1386. Mais qu'est-ce qui a conduit ces deux amis, un chevalier et un écuyer, à s'affronter à mort? Dans quelles circonstances le combat a-t-il été organisé et comment s'est-il déroulé? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un duel judiciaire au Moyen-Âge? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode en deux parties. Seconde partie, le jugement de Dieu. Conformément au protocole, il est midi lorsque Jean de Carrouge se présente au champ Sainte-Catherine. Jacques Le Gris, quant à lui, doit se présenter avant 3 heures. En cas de non-respect de l'horaire, le Parlement déclare le contrevenant vaincu. Jean de Carrouge s'avance vers l'échafaud où se tient le roi et sa suite. Il est encore temps pour lui de renoncer à se battre. Les écuyers ont dressé des tentes pour chacun des deux champions. On y apporte du pain, du vin, des victuailles. Dans le serment prononcé au roi, les chevaliers s'engagent à ne pas avoir recours à la magie pour vaincre. Il est notamment fait mention de ce charroise, qui est le chariot magique sur lequel le roi Arthur, selon la légende, voyage dans les airs pour porter assistance aux chevaliers en difficulté. L'homme du Moyen-Âge, s'il est par certains côtés très terre-à-terre, est en contact constant avec le merveilleux. Jean de Carrouge s'avance devant le roi. Il est revêtu de sa cuirasse et de son haume, dont il relève la visière pour prêter serment. Face au roi, il s'agenouille sur un prie-dieu richement paré et couvert d'une image de la Passion. Un prêtre se tient à sa droite.
« Sire chevalier, vous voyez ici la très vraie image de notre Sauveur, vrai Dieu Jésus-Christ, qui a voulu mourir pour vous et livrer son très précieux corps à mort pour vous sauver. Priez-le qu'à ce jour il veuille vous aider si bon droit vous avez, car il est souverain juge. Souvenez-vous des serments que vous ferez, ou autrement votre âme, votre honneur et vous êtes en péril. »
Le maréchal chargé de régler la cérémonie prend les deux mains gantées de Jean de Carrouge. Il pose la droite sur la croix, la gauche sur le Te Igitur, le missel romain. Il propose au chevalier une dernière fois de renoncer au combat. Mais Jean de Carrouge persiste. Il jure alors sur Jésus-Christ, l'Évangile et son propre baptême, être dans son bon droit. Il retourne à sa tente, mais fait une halte devant Marguerite, son épouse, qui est là sur un chariot couvert de drap noir.
« Dame, sur votre information, je vais aventurer ma vie et combattre Jacques Le Gris. Vous savez si ma cause est juste et loyale. »«
Monseigneur, il en est ainsi, et vous combattez sûrement, car la cause est bonne. » Il va falloir aux spectateurs de la patience, car le rituel préparatoire n'est pas terminé. Chacun des chevaliers a prêté serment individuellement. À présent, c'est ensemble qu'ils sont appelés à s'agenouiller devant le roi. Le maréchal leur ôte le gant de la main droite et pose chacune d'elles sur un bras de la croix. Le prêtre enjoint les deux hommes de prendre la mesure de ce qu'ils vont entreprendre. Ils doivent garder à l'esprit que le vaincu risque la perte de son âme. Ils peuvent encore s'en remettre au jugement du roi, qui peut se montrer clément, quand Dieu, lui, couvrira de sa colère et de son indignation celui d'entre les deux qui aura menti. Silence. Jean de Carrouge, fidèle à sa nature ardente, est sans doute tremblant de colère. Le prêtre, dans un ultime élan de conciliation, répète que tout peut s'arrêter là, sans aucune conséquence funeste pour l'un et l'autre. en vain. Il prend alors les mains droites de chacun des deux chevaliers et les assemble. Jean de Carrouge répète, une à une, les paroles que prononce le maréchal.
« Toi, Jacques le Gris, que je tiens par la main droite, par les serments que j'ai faits, la cause dont je t'ai appelé est vraie. Par quoi j'ai bonne cause et loyale de t'appeler, et à ce jour t'en combattrai. Et tu as mauvaise cause, et nulle querelle de t'en défendre et t'en combattre contre moi, et tu le sais, dont j'en appelle Dieu et Monseigneur Saint-Georges, le bon chevalier, à témoin, comme faux, traître et foi mentie que tu es. »
Chacun regagne son pavillon. Le maréchal s'avance au milieu du champ. Par trois fois, il va prononcer ces courtes paroles. « Laissez-les aller !» Il jette alors au sol le gant de Jean de Carrouge qu'il a gardé jusqu'à cet instant. Le sort en est jeté. Carrouge sait que s'il gagne, s'il tue Jacques le Gris, le cadavre de son adversaire sera traîné derrière un cheval jusqu'au gibet de Montfaucon où il sera pendu. Ses chevaux, son armement, son armure seront donnés aux maréchaux du camp. Mais il sait aussi que s'il perd, il subira le même sort. Et que son épouse Marguerite, convaincue d'avoir menti, sera brûlée vive. Le combat est engagé. Il sera jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dans le cas qui nous occupe, il concerne deux hommes du même âge. Ils ont tous deux 56 ans. Ce sont loin d'être des jeunes premiers, mais ils sont rompus au métier des armes. Revêtus de leurs cottes de maille, armures, jambières et aumes, il n'est pas possible aux spectateurs de voir leur visage. On dit pourtant que Jacques le Gris est bel homme et que Jean de Carrouge accumule les disgrâces. Petit, laid, il rivalise en cela avec son illustre compagnon d'armes du Guesclin. Tous deux sont d'une grande force physique. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? Il leur fallait manier l'épée portant un accoutrement qui pesait plus de 20 kilos. Sur la tribune où siège le roi, on fait silence. Les deux chevaliers ont brisé leurs lances et se battent à présent à l'épée. Vous l'aurez compris, le duel judiciaire, en faisant intervenir Dieu en direct dans les affaires humaines, incarne l'esprit même du Moyen-Âge. Son origine bien établie remonte aux invasions barbares, et il semble que la forme que nous lui connaissons à partir du XIIe siècle soit l'héritage exclusif des peuples germains christianisés. On ne trouve en effet pas de coutume semblable dans les pays latins. Et depuis que les premiers duels de cette sorte sont apparus vers le VIe siècle, une institution a inlassablement demandé leur interdiction. Cette institution, c'est l'Église, par la voix de ses ascètes et de ses prélats. À l'époque de Charlemagne, où ces pratiques avaient achevé de se répandre dans tout l'Empire, l'archevêque de Lyon, saint Agobard, s'exprime en ces termes.
Il arrive souvent que non seulement des hommes forts, mais aussi des personnes faibles et des vieillards sont provoqués à ces combats. Et cela pour les choses les plus futiles. Ces horribles luttes amènent d'iniques homicides, des sentences barbares et perverses. Car on se figure que Dieu est du côté de celui qui parvient à l'emporter sur son frère et à le précipiter dans un abîme de maux. C'est là une détestable erreur et un horrible désordre. Plutôt que de renoncer à ces pratiques criminelles, on méprise l'autorité des Saintes Écritures. On brise la concorde qui doit régner entre les chrétiens et on fait à Dieu, qui est essentiellement bon, l'injure de le regarder comme le protecteur de la violence et l'oppresseur des malheureux. On ne peut pas voir là une loi, mais un meurtre.
Du côté de la papauté, en revanche, il faudra un certain temps avant que le souverain pontife n'intervienne dans le jugement d'une pratique dont Rome s'accommodait somme toute assez bien durant tout le haut Moyen-Âge. En effet, les papes, désireux de permettre aux monarques français de conserver leur prestige, ne pouvaient condamner le duel judiciaire sans se voir accusés d'ingérence dans les affaires du royaume. Il faudra attendre le pape Alexandre III, au début du XIIe siècle, pour entendre parler du duel judiciaire comme d'un acte exécrable. Et jusqu'au XIIIe siècle, les papes, si l'on excepte Innocent III, qui est resté assez ambigu sur le sujet, condamneront sans ménagement l'odieuse pratique. Certains théologiens s'étaient pourtant évertués à expliquer qu'un chrétien sans défense, confronté à une offense que nul tribunal terrestre ne pourrait juger, est en droit de demander un miracle à Dieu, et que ce miracle se peut être de vaincre l'offenseur dans un combat singulier. On aurait ainsi un accomplissement des versets du Magnificat selon lesquels Dieu relève les faibles. Peine perdue, Célestin V, humble moine devenu pape au XIIIe siècle, fulminera une bulle, on ne peut plus clair.
Le duel est un combat singulier entre deux hommes qui a pour but de faire reconnaître la vérité sur un fait contesté. Il n'est pas permis, même entre laïcs, parce que c'est tenter Dieu.
Alors si l'on perpétue cette pratique réprouvée par l'Église, c'est sans doute à cause de la dureté des temps. La France de 1386 n'est pas cette douce France où l'on peut couler des jours paisibles à l'abri du besoin et des ennemis. Nous avons tous en tête la carte de France, cet approximatif hexagone composé de régions qui toutes sont autant de facettes d'une unique nation. Mais au Moyen-Âge, il n'en est pas ainsi. Le royaume de France est une mosaïque de petites régions qui, selon les rivalités de tel ou tel duc, de tel ou tel comte, entrent dans le giron du roi de France ou en sortent. Lorsque le tout jeune Charles VI devient roi, il est encore un adolescent. Son père Charles V avait préparé sa succession de telle sorte que la régence soit assurée par la reine. Mais la reine était morte. Ce sont donc les oncles de Charles VI, les puissants ducs de Bourgogne, de Berry et de Bourbon, qui prirent en main le destin du royaume. Or, chacun avait ses ambitions personnelles et tous étaient cupides à l'extrême. Durant plusieurs années, la France fut tiraillée entre les appétits de ses souverains avant d'être livrée tout bonnement à l'Anglais, avec qui certains des ducs partageaient des profits. Pour couronner le tout, la chrétienté s'était dotée de deux papes, l'un légitime à Rome, l'autre irrégulier à Avignon. Certains des oncles de Charles VI en tenaient pour le pape d'Avignon. C'est dire qu'il faisait peu de cas des décrets venant de Rome. On ne peut donc juger de la persistance d'une coutume aussi cruelle que le duel judiciaire dans un pays où n'existe ni gouvernement temporel unifié, ni foi partagée. Le clergé de France, une fois n'est pas coutume, faisait l'économie des décisions prises en haut lieu. D'où la présence officielle, malgré l'absence de clercs dans les tribunes, d'un prêtre régulier pour recueillir les serments des duellistes. Et tandis que des hommes en appelaient à l'Éternel pour régler des différends d'ordre privé, ducs et comtes se disputaient la France, loin du regard de Dieu. On ouvrait la route qui permettrait à Isabeau de Bavière, quelques années plus tard, de vendre ce qu'il restait du royaume de France aux Anglais. Pour connaître l'issue du duel judiciaire qui opposa Jean de Carrouges et Jacques Le Gris en 1386, rendez-vous demain au cinéma pour voir le dernier duel de Ridley Scott. Et comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que je viens de vous raconter a été écrit par Jean-Louis Bachelet, la réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.